bonjour Laure Franek.
Bonjour Odile.
Alors le sujet aujourd'hui de cette histoire d'archives, de ces histoires d'archives.
Ces histoires d'archives. Alors les archives départementales vont présenter au public le 7 décembre prochain à 18h aux archives leur nouvelle publication. Ce sont les actes d'une journée d'études que nous avons organisée en décembre 2016. Consacré à la construction et à la restauration des bâtiments en Haute-Provence, depuis l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle. Alors c'était une journée d'études, c'est une deuxième journée d'études, puisque la première avait eu lieu en 2012, si je ne me trompe pas, et avait rencontré un succès, mais qui était... Voilà, qui était resté assez limité, et on avait vraiment envie de continuer sur cette thématique-là, qui nous permet en fait de valoriser nos fonds, puisque vous savez que pour trouver des choses en archives, il faut se poser des questions. Donc si on arrive dans une salle d'archives, dans une salle de lecture, en se disant qu'il y a trop de masse de documents pour trouver quelque chose. Donc avant d'entrer, avant de se confronter à des archives, il faut se poser des questions. Donc pour nous, c'est très intéressant d'organiser ces journées d'études parce que ça nous oblige à nous poser des questions sur la thématique de la construction et du matériau. Et qu'est-ce qu'on trouve en matière d'indices concernant la construction et les matériaux dans nos archives dans les Alpes d'Haute-Provence. Et puis c'est aussi l'occasion pour nous d'associer un public plus varié, puisque on a contacté pour cette journée des associations, des chercheurs, des amateurs tout simplement, mais aussi des professionnels de la construction. Ça a été un petit peu la nouveauté par rapport à la première journée d'études, puisque notamment dans le public nous avions des maçons et tailleurs de pierre, et parmi ceux qui ont présenté une intervention, il y avait notamment un gypier. Mais bon, j'y reviendrai. Donc ça permet de croiser des regards entre des professionnels, des amateurs, des gens qui pratiquent les archives, et puis nous-mêmes, hein, puisque nous sommes confrontés à nos archives tous les jours. Voilà, donc cette journée a eu lieu un samedi, justement pour toucher le public des professionnels, hein, qui travaillent dans le privé et qui n'ont pas forcément la possibilité de se dégager du temps en semaine. Et donc voilà, on s'était engagé à produire les actes de ces journées, et associé à ces actes, nous allons aussi décliner une petite exposition itinérante, comme on le fait souvent, pour que ça puisse être diffusé dans tout le département. Voilà. Donc ce qu'il faut dire aussi, cette journée d'études, outre le fait qu'il y a eu cette première journée en 2012 consacrée aussi aux matériaux, pourquoi on a aussi remis cette idée sur les chevaux, c'est qu'on a été contacté par la Conservation régionale des monuments historiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la Direction régionale des affaires culturelles, hein, le service de l'État, qui était en train de travailler, et travaille toujours d'ailleurs, à une base de données qui s'appelle Pierre Sud, qui est conçue comme un observatoire sur les pierres dans le patrimoine historique du sud de la France. Alors ils sont associés au Bureau des recherches géologiques et minières, entre autres, hein, et l'idée c'était de repérer les matériaux utilisés dans les monuments historiques, les pierres, hein, parce que on parlait uniquement de pierres, et de voir d'où elles provenaient, pour savoir déjà comprendre la circulation des matériaux au fur et à mesure des époques de construction des bâtiments, et aussi savoir comment on allait pouvoir les restaurer. Est-ce que les carrières étaient toujours en activité, ou est-ce qu'au moins la veine de la roche était toujours accessible? Voilà, donc c'était l'idée de mieux connaître comment sont faits les monuments. Et donc le conservateur régional des monuments historiques est venu aux archives présenter cette base et a expliqué qu'il aimerait bien qu'au niveau des Alpes d'Haute-Provence, il y ait des recherches qui émergent sur le sujet, qu'il y ait un travail sur les archives qui permettent de repérer justement d'où venaient les matériaux dans les Alpes d'Haute-Provence. D'où l'idée donc de cette deuxième journée d'études, puis de ces actes et de cette future exposition. Voilà. Donc les actes seront en vente aux archives, toujours au tarif très avantageux de 15 euros. Donc ce sera avec plaisir que nous allons présenter cet ouvrage. Alors, je vais en revenir un petit peu plus profondément. Alors, j'ai oublié de dire aussi que sur notre lancée, nous allons organiser une troisième journée d'études à l'automne 2018, cette fois-ci consacrée au bois. Hein, toujours sur la même idée, c'est on se pose la question de savoir comment on peut traquer le matériau bois dans nos archives et avec l'aide de tous ceux qui pratiquent notre salle de lecture. Donc vraiment toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà, donc l'ouvrage là, qui va être présenté le 7 décembre est décliné en quatre thèmes. Donc les matériaux, leur mise en œuvre, des petites monographies sur des édifices dignois sur lesquels on avait des dossiers archivistiques un peu importants qui nous ont permis de vraiment bien les étudier, et puis la notion de patrimoine à travers la pierre. Voilà, donc je vais pas, juste peut-être quand même pour rendre hommage aux auteurs, vous montrer un petit peu les différentes interventions qu'il y a eu. Je vais pas parler de toutes, hein, j'en ai choisi une dans chaque thème pour montrer aux auditeurs ce sur quoi on avait travaillé. Donc par exemple dans les matériaux, nous avons eu une présentation donc du fameux observatoire Pierre Sud, donc par quelqu'un du Bureau de la Recherche Géologique et Minière, et une personne aussi qui a rendu une étude documentaire sur ce sujet. Bernard Renoux, un sujet sur lequel je reviendrai après, a travaillé sur les matériaux et la construction en Haute-Provence dans les archives notariales. Donc Bernard Renoux, par exemple, c'est un retraité qui est chercheur amateur et qui vient très souvent dans notre salle de lecture. Et ça nous semblait intéressant qu'il puisse montrer ce sur quoi il travaille et les avancées de ses recherches. Ensuite, exploiter des ressources pour obtenir des matériaux de construction et les conditions de leur exploitation en Haute-Provence du 18 au 19e siècle. Ça, c'était une intervention de Sophie Chouyal, qui est archiviste dans mon service, et d'Éric Fabre, qui est un historien, qui est l'historien dont on a publié la thèse sur la vie rurale en Haute-Provence. Claude Badet, qui est le conservateur délégué aux antiquités et objets d'art, donc qui travaille à la protection des objets dans le département, nous a présenté l'utilisation des marbres de Morin et de Sérène dans les églises de Haute-Provence au XVIIIe et XIXe siècle. Voilà, donc vous voyez des sujets très variés en fonction en fait des sujets sur lesquels les gens travaillent. La deuxième thématique était consacrée à la mise en œuvre. Donc Mathias Dupuis, l'archéologue départemental, nous a parlé évidemment de la cathédrale de Senèze, qui est son grand sujet actuel. Philippe Berton, Fabienne Galis et Philippe Rigaud, et ça j'y reviendrai après aussi, c'est l'exemple que j'ai choisi pour ce thème, nous ont parlé de l'hôtel de Mazan, à Riez. Ensuite, troisième thématique, les édifices dignois. Jean-Christophe Labatie, directeur des archives départementales, nous a présenté les différents projets des administrations depuis la Révolution jusqu'à l'Empire à Digne, hein, en montrant tous les différents projets, parfois grandioses, concernant par exemple la prison, qui avait vu le jour, hein, et qui parfois sont restés au stade de projet. Moi-même, j'ai évoqué le retour de l'évêque dans son palais épiscopal après la Révolution française, donc entre 1810 et 1845. J'y reviendrai, et c'est évidemment le sujet que j'ai choisi pour en parler un peu plus longuement aux auditeurs. Et Marie-Christine Braillard, qui est l'ancienne conservatrice départementale des musées, nous a présenté le projet de la nouvelle cathédrale de Digne, le rêve d'un évêque et d'un préfet, le projet architectural de 1841. Voilà, et ce qu'il en est advenu. Enfin, quatrième et dernier thème, consacré donc à la notion patrimoniale du matériau pierre. Janine Bourvet-Auravoux, que beaucoup de gens connaissent, qui s'occupe d'une association très dynamique, nous a parlé de l'aqueduc de la mer des Fontaines à Fort-Calquier, et notamment ses problèmes de maintenance qui ont démarré dès le XVIIIe siècle. Nicole Michel-Danouville, qui est l'ancienne archéologue, elle s'occupait du musée de Sisteron, nous a parlé du désir d'éternité et architecture funéraire. Et enfin, Hélène Homps, la directrice du musée de Barcelonnette, nous a parlé de l'ère de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Barcelonnette pour la mise en valeur du cimetière. Mais j'y reviendrai parce que c'est l'intervention que j'ai choisie pour en parler plus longuement. Voilà, donc je voulais quand même faire passer en revue les différents auteurs, montrer que voilà, ce n'est pas que des institutionnels, c'est aussi des gens qui s'investissent dans la recherche historique, parfois, et très souvent d'ailleurs sur leur temps libre ou leur temps de retraité, et c'était important de mettre en lumière leurs travaux. Voilà, donc alors je vais revenir au premier thème, celui des matériaux, et évoquer donc le travail de Bernard Renouf. Donc, il a analysé 160 contrats de construction, très souvent ce qu'on appelle donc des préfets. Hein. Un préfet, c'est en fait une commande à un exécutant. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment le détail de ce que souhaite le commanditaire avec le type de matériaux, la mise en œuvre. Donc c'est très très détaillé. C'est un peu ce qu'on appellerait aujourd'hui un devis, hein, un devis d'exécution. Voilà, donc il a étudié ses contrats dans des archives notariales, dans une zone géographique, celle de la vallée de la Basse-Bléone. Alors, ce qu'il a repéré, après je renvoie évidemment les auditeurs à l'ouvrage hein, pour plus de détails, là c'est vraiment pour donner un petit peu un aperçu de ce qu'on peut trouver finalement dans les archives quand on prend la peine de... Ben, je reviens toujours on ne trouve que ce qu'on cherche. Si on ne cherche rien, on ne trouve rien. Donc là, il s'est vraiment posé la question de savoir comment... d'abord, qu'est-ce qu'on construisait dans la vallée de Basse-Bléone et avec quels matériaux. Eh bien, sans surprise, j'allais dire, hein, parce que ça confirme quand même des choses qu'on peut voir encore avec nos propres yeux. Les matériaux pierres, eh bien, c'est beaucoup de galets. On voit ça dans la construction, quand les crépis sont un peu abîmés, on voit encore les murs en galets, ou des fois donc de moellons qui sont liés par un mortier à sable et à chaux. Voilà, donc mise en œuvre très peu de pierres de taille, en fait. Hein. La pierre de taille est une pierre coûteuse qui demande un savoir-faire et finalement, elle n'est réservée que pour des édifices majeurs ou certaines parties qu'on souhaite mettre en valeur, comme un porche, par exemple, ou un très bel escalier. Mais sinon, on est vraiment sur une mise en œuvre assez simple, quand même. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est pas, y a pas un savoir-faire, hein, mais on n'est pas dans de l'architecture ultra monumentale. Les toits, eh bien, sans surprise aussi, dès le XVIe, hein, c'est de la tuile, mais aussi de la lauze, hein, donc les couvertures en pierre, justement. Et le plâtre sert bien pour enduire les murs ou en décoration. On y reviendra puisqu'on va parler de la gypserie, qui est quand même un élément très intéressant du département en matière d'architecture. Voilà, donc ça c'est vraiment typiquement le genre de travail qu'a fait M. Renouf, très intéressant, parce qu'il a fait des choses de manière systématique, il a vraiment passé en revue dans une zone géographique précise tous les contrats de vente qu'il a pu trouver dans les archives notariales. Il faut imaginer des heures et des heures hein, de dépouillement, parce que quand on ouvre une boîte d'archives, on n'est jamais sûr de trouver ce qu'on cherche, justement. Donc on peut ouvrir et quantité de boîtes sans jamais rien trouver d'intéressant. Rien d'intéressant, évidemment, au regard de ce qu'on cherche au départ. Après, la même boîte pourrait être ouverte par un autre chercheur qui, lui, y trouvera son bonheur. C'est tout le plaisir des archives, hein, c'est de pouvoir être manipulé 36 fois par 36 personnes différentes et de finalement en avoir une analyse différente une utilisation différente. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième thème, donc la mise en œuvre cette fois. Alors là justement, je voulais revenir sur l'exemple de l'hôtel de Ries, parce que Philippe Berton est le restaurateur Gipier qui est intervenu sur la restauration de l'hôtel de Mazan à Ries. Donc lui, il avait vraiment un regard de praticien. Fabienne Galis est la responsable musée de l'agglomération Durance-Luberon-Verdon, qui a porté ce projet de restauration. Et Philippe Rigaud est un historien. Donc ils ont fait une présentation à trois en travaillant sur les mêmes sources, les mêmes archives, et en travaillant sur le même bâtiment pour croiser les regards. Et là, c'est vraiment intéressant, notamment l'apport de Philippe Berton, parce que il a pu interpréter, par exemple, des termes techniques qui restaient obscurs pour l'historien. L'historien ne connaît pas forcément la façon de travailler d'égypier de l'époque. Donc, je rappelle que l'hôtel de Mazan est un hôtel classé monument historique, qui est un hôtel du XVIe, qui a un décor remarquable de gypserie, qui a donc été restauré. Je ne suis pas certaine que les travaux soient tout à fait finis. Je suis allée à Riez il y a quelque temps, c'était encore échafaudé. Mais voilà, donc c'est vraiment un hôtel très remarquable. Et de croiser ses regards sur les mêmes archives est très intéressant. Philippe Rigaud, lui, est capable de lire le latin. Fabienne Galis connaît très bien la ville de Riez. Et Philippe Berton, lui, il a son approche technique. Et donc, il a vraiment pu dire, voilà, ça, moi, je pense que ça veut dire ça. Voilà, donc vraiment, c'est ça, quand c'est possible de le faire, c'est vraiment très bien. Quand je travaillais dans une vie antérieure, au service des monuments historiques à la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, j'avais visité pour le travail un château qui avait été acheté quasi ruiné par un historien médiéviste. Et ça m'avait frappé, à l'époque j'avais une vingtaine d'années, il m'avait dit que pour lui ça avait été la révélation de devoir restaurer lui-même son château pour comprendre, déjà comprendre l'édifice, et puis comprendre aussi les quelques archives qu'il avait sur ce château, parce que de faire les gestes des gens qui ont remis la terre, déplacé les pierres, monté des murs, et ça lui avait vraiment intimement fait mieux comprendre les lieux. Et là, on retrouve un peu cette idée, hein, en essayant de croiser les regards entre des professionnels et des historiens. Je fais une petite incise, hein, dans le même ordre d'idée, va être au mois de décembre Isabelle Grenu, que certains connaissent peut-être, hein, qui est quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, hein, qui est, je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle est aide-soignante, et qui avec beaucoup de passion, s'est intéressée au sujet des enfants trouvés dans le département. Cette passion a été littéralement dévorante puisqu'elle en a fait une thèse qu'elle soutient à l'Université d'Aix-en-Provence au mois de décembre, devant un jury composé d'universitaires. Nous allons aller l'écouter pour la soutenir. Mmh. Et voilà, donc là aussi, vous voyez quelqu'un qui est issu du métier, qui est sensibilisé à certaines thématiques, qui se pose des questions sur l'histoire, va aux archives, et puis ça devient le sujet peut-être pas d'une vie, mais certainement pour Madame Grenu de plusieurs années. Voilà. Donc je reviens à la matière et le bâti, mmh, pour aborder le troisième thème, hein, celui de la mise en œuvre. Non, pardon, j'en ai déjà parlé, donc des édifices dinois. Et je vais parler du sujet sur lequel j'ai travaillé, hein, très très rapidement. Je l'avais déjà un petit peu évoqué sur vos antennes il y a un an, quand on avait préparé la journée d'études. Donc les archives départementales disposent évidemment des dossiers relatifs aux édifices publics du département, et notamment de la ville-préfecture d'Igne. Et là, il y avait un dossier assez intéressant, car à la Révolution française, on a demandé à l'évêque de quitter le palais épiscopal, qui a été récupéré pour l'administration révolutionnaire, et puis qui a connu quelques changements d'affectation à des périodes très rapprochées, en fait. Hein. Il y a eu une espèce de valse, comme ça, des administrations, projet contre projet, déménagement. Et puis, dès 1810, est évoquée l'idée qu'on pourrait peut-être rendre le palais épiscopal à l'évêque pour en refaire sa demeure. Alors, évidemment, à un moment donné, il y a l'évêque Miollis qui s'en mêle. Et donc, Miollis, avec son tempérament, a bien œuvré pour ça, parce qu'il voulait évidemment récupérer le palais épiscopal. Et voilà, et donc on a 30 ans d'archives qui expliquent là aussi toutes les vicissitudes de l'administration, du rapport avec le clergé, pas toujours simple, parce qu'évidemment l'évêque veut quelque chose de grandiose, l'administration a déjà des problèmes d'argent, donc lui répond que, en termes très bien choisis, qu'on ne peut pas accéder à toutes ses demandes. Et donc c'est 30 ans comme ça de négociations, projets, nouveaux projets, construction par tranche, parce qu'évidemment tout n'est pas fait d'un seul coup, jusqu'en 1845, où là, point d'orgue au projet, on construit le jardin de l'évêché, dont on voit encore les vestiges au niveau de Pied-Cocu, hein, si des randonneurs amateurs un peu curieux se promènent, ils peuvent distinguer. D'abord, il y a encore de la belle végétation, des beaux arbres. Et d'ailleurs, les archives recèlent la liste exacte des plans qui ont été choisis pour le jardin de l'évêché. Il a un peu perdu de sa splendeur, malheureusement. Peut-être qu'un jour, il y aura une idée de le réhabiliter. Mais voilà. Et là, le passage sur le souhait de l'évêque d'avoir un jardin est assez amusant, parce que lui, évidemment, il veut avoir un accès direct à son jardin. Donc il y a des projets assez un peu délirants quand même, de passerelles par-dessus la rue. Il veut acheter toutes les parcelles à côté parce qu'il n'a pas envie d'avoir de voisins. Enfin bon, donc, tout ça ne se fait pas, mais on lui fait quand même un jardin qui va péricliter malheureusement avec le temps. Voilà, peut-être avant de passer à la fin de l'émission... Donc j'ai amené un disque d'un groupe local qui va se produire samedi 25 novembre à 20h30 au Centre culturel René Char, avec un autre groupe qui s'appelle Fate. Donc ce deux groupes des Alpes d'Haute-Provence. Et voilà, un petit coup de pouce en espérant donner envie au public de venir les écouter. Ils s'appellent Mami Wata et leur morceau s'appelle Sun.
Where is the sunshine?
Voilà, donc on revient avec Histoire d'archives et Laure Franek.
Merci Odile. Donc sans transition, après ce morceau, on va terminer par le dernier thème donc, du livre qui, je rappelle, est Construire et restaurer en Haute-Provence, de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, qui, un livre qui va être présenté aux archives départementales le 7 décembre à 18h en présence des auteurs. Et le public est évidemment bienvenu. Et donc le dernier thème abordé dans cet ouvrage est consacré au patrimoine, et notamment au patrimoine de Barcelonnette. Donc Hélène Homps, conservatrice du musée de la Vallée à Barcelonnette, est venue nous présenter le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine de Barcelonnette, donc ce qu'on appelle donc les ZAVAP. Si certains connaissent, c'est ce qu'on appelait autrefois les ZPPUP, les zones de protection du patrimoine, de l'architecture et du paysage, bon, qui sont devenues donc des ZAVAP. Et les ZAVAP sont un outil de gestion au service des municipalités pour gérer au mieux leur patrimoine. Puisque vous savez que le problème des monuments historiques, entre autres, c'est que quand on protège un monument historique, on protège le bâtiment et un périmètre autour de lui, mais on peut... C'est des points, en fait. C'est des points sur une carte. Une AVAP permet de dessiner, de faire un zonage qui permet non pas de supprimer les autres protections qui existent, mais de donner un outil de gestion qui soit plus un peu plus souple, et puis surtout une étendue géographique plus importante, et puis surtout d'englober des édifices ou des éléments du patrimoine qui ne méritent pas une protection au titre des monuments historiques au regard des critères qui sont ceux de l'administration, mais qui sont quand même très intéressants. Et alors typiquement, les cimetières font partie de cette problématique, parce qu'il est très compliqué de protéger au titre des monuments historiques un cimetière, parce que vous avez plein d'ayants droit, une législation très compliquée, il y a les concessions qui ne sont pas forcément à vie, vous imaginez les soucis de gestion. Donc l'AVAP permet de gérer justement ce type de patrimoine. Et il se trouve que Barcelonnette a un très beau cimetière, considéré comme l'un des plus beaux de France. Hélène Homps faisait cette citation dans son intervention. Et c'est le cimetière du Péra. Hein. On parle bien évidemment du cimetière historique qui date du milieu du XIXe siècle et qui est évidemment intéressant parce qu'il est le symptôme de cette histoire très particulière qu'a connue Barcelonnette avec cette émigration au Mexique. Puisque c'est une histoire bien connue maintenant, hein. Un certain nombre de Barcelonnettes sont partis au Mexique, mais sont aussi revenus, ce qui est un peu plus surprenant pour ce type d'émigration. Et donc, se sont fait construire des belles maisons dans lesquelles ils ont vécu et qu'on peut toujours admirer, mais se sont fait aussi construire des belles tombes, évidemment. Et les tombes sont parfois aussi fantasques et éclectiques que l'ont été leurs maisons. Donc ça donne un cimetière assez étonnant, avec vraiment... Hélène Homps a employé le terme de laboratoire de forme, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment toutes sortes de styles, parce qu'évidemment ces gens-là avaient de l'argent. Comme je le disais, ils avaient non seulement une belle maison dans laquelle ils vivaient, donc ils voulaient que leur dernière demeure soit à la hauteur de leur vie et de leur maison. Donc ils ont vraiment fait l'effort de commander une belle tombe. Donc de l'argent, une certaine prétention sociale, une volonté de paraître jusque dans la dernière demeure. Et en plus, il y avait... Alors donc ça, c'est ces fameux Barcelonnettes qui sont partis au Mexique, qui sont revenus. Barcelonnette a aussi bénéficié du savoir-faire d'artisans piémontais, donc un autre type d'immigration cette fois, d'ouvriers qui venaient d'Italie et qui venaient chercher du travail. Et ils sont allés là où on leur en donnait, là où il y avait de l'argent. Donc des artisans vraiment très intéressants, très agiles qui ont travaillé dans ce cimetière. Et dernier aspect un peu particulier pour Barcelonnette, c'est qu'évidemment, l'Ubaye est une grande richesse géologique. Il y a des très belles veines, pour ne citer que par exemple que le marbre de Sérène. Donc on a des tombes avec une grande variété de matériaux, des matériaux locaux, mais pas seulement. On a quelques tombes qui mettent en œuvre du marbre de Carrare, pour vous dire quand même que... C'est un cimetière qui détonne un peu dans la région, parce que là, ce n'est pas seulement une ou deux tombes qui sont très belles, c'est vraiment tout un ensemble. Et puis le site est magnifique, vous verrez dans le livre, les photos sont très très belles, on voit ces tombes, et puis évidemment, toutes les montagnes en arrière-plan, c'est réellement magnifique. Voilà le petit tour d'horizon du matériau pierre dans la construction et la restauration du bâtiment. Donc vous voyez, on peut répondre quand même à beaucoup de questions en lançant un thème. Et on espère que le thème du bois qui sera traité en 2018 donnera lieu aussi à des jolies surprises et des belles collaborations avec des chercheurs et des amateurs. Donc ça sera la surprise de l'année prochaine. Voilà, peut-être pour terminé,
oui.
Vous parlez un peu de notre actualité évidemment, donc j'ai déjà évoqué donc le 7 décembre je rappelle qui est un jeudi à 18h présentation du livre dont je viens de parler, Construire et restaurer en Haute-Provence de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, en Haute-Provence donc, en présence des auteurs. L'entrée est évidemment libre et gratuite comme d'habitude et le public sera bienvenu. Vendredi 17 novembre, Monsieur Labadie, directeur des archives départementales, fait une conférence au centre L'Étoile à Gréoux-les-Bains.
Donc ça, c'est ce vendredi-là.
Ce vendredi,
oui, c'est demain.
Mmh. Donc c'est demain, mmh. À Gréoux, donc, sur le thème du 11 novembre 1918, une victoire des morts, hein, puisque nous sommes en pleine commémoration. Dans le même thème, aux archives départementales, l'exposition 1917-1918 continue et elle va durer jusqu'en novembre 2018, où là on fera quelque chose évidemment d'un peu particulier pour commémorer la fin du cycle du centenaire de la guerre 14-18. Ensuite, toujours aux archives départementales, est visible l'exposition consacrée à Ganagobi. Donc Ganagobi, cette exposition est visible à la fois aux archives départementales, mais aussi au monastère de Ganagobi. En plus, au monastère de Ganagobi, ont été conservés les moulages de la mosaïque qui ont été présentés à la cathédrale cet été. Donc on les a déplacés depuis la cathédrale jusqu'au monastère au mois d'octobre. Et ils sont présentés au monastère au moins jusqu'au mois de janvier. Donc c'est, si les gens sont intéressés, quand ils vont dans la boutique, en fait, on ne le sait pas toujours, mais il y a un espace exposition sur la droite de la boutique du monastère,
ouais. Mmh. Voilà,
où ils ont mis en scène certaines de leurs trouvailles, des tesselles, des fragments de poterie, et puis un petit historique du site. Et quand on continue, quand on traverse ce petit corridor où il y a donc ces vestiges qui sont exposés, il y a une salle qui est une salle de conférence et qui sert justement actuellement à l'exposition sur Ganagobi. Voilà, mais de toute façon, toutes nos actualités sont régulièrement mises à jour sur notre site internet, donc archives au pluriel 04. Et j'invite tous ceux qui sont passionnés par l'histoire à venir consulter régulièrement ce site. Voilà pour le petit tour d'horizon du travail aux archives départementales. Merci Odile.
Merci Laure. Et puis à bientôt déjà donc le 7 décembre,
voilà.
C'est un jeudi.
C'est un jeudi, oui, tout à fait.
Présentation de l'ouvrage aux archives Construire et restaurer en Haute-Provence.
Merci.
Merci, à très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.